Je vous partage mon écran. Donc, le sujet qu'on va couvrir ce matin, c'est l'autel d'or des parfums. C'est vraiment quelque chose qu'en réalité, je n'avais jamais apprécié. Et en passant du temps à préparer pour la conférence, j'ai réalisé que c'est quelque chose d'assez fou. Ça fait partie des meubles pour lesquels on n'a pas tellement une appréciation, on ne comprend pas vraiment la signification. Et j'ai vraiment eu besoin de cette conférence pour commencer à apprécier. On peut continuer comme on a vu dans les réunions précédentes. Que c'est une vue d'ensemble du tabernacle. On a l'autel des holocaustes en airain, le tabernacle lui-même, la cuve. Et j'aimerais vous montrer où est exactement l'autel d'or des parfums. Ici, c'est l'autel d'or des parfums, proche du voile. Et ce que j'ai réalisé dans cette conférence, j'ai compris et j'ai vu de plus en plus que l'objectif, c'est vraiment qu'on se tienne là. C'est vraiment le plus près du Saint des Saints. C'est vraiment au plus près de là où Dieu met sa présence. Si on se tient dans la cour extérieure, on parle beaucoup des offrandes, elles sont nécessaires. C'est ce que Dieu désire. Mais parfois, on oublie que le but, c'est en réalité d'entrer à l'intérieur, d'entrer plus loin dans ce tabernacle. Et on a parlé de comment c'est la maison de Dieu, comment ce tabernacle représente le lieu où Dieu habite. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit cet autel d'or des parfums représente notre communion avec Dieu. On peut vraiment entretenir cette relation à cet endroit-là, avoir discuté avec lui, parlé, il nous répond. Et il y a un voile ici. S'il n'y avait pas ce voile, ce serait droit en face du Saint des Saints, pile en face de l'arche. Vous rappelez que quand Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré. Donc le chemin au Père a été ouvert. Donc aujourd'hui, c'est possible. Nous pouvons et nous devrions avoir cette relation proche. On a déjà évoqué quand on va à la maison de quelqu'un, on sait que ce tabernacle, c'est le lieu où Dieu habite. On a parlé aussi de la table des pains de proposition. Quand on va chez quelqu'un, tu ne veux pas juste ouvrir le frigo, te servir et partir. C'est pas vraiment le but d'aller chez quelqu'un. Si j'entre, j'ai envie de parler à cette personne. Ils m'ont probablement préparé un bon repas, je peux manger avec eux, mais je ne vais pas là pour le repas. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas là juste pour manger ce que la personne a préparé. Mais le but, c'est de parler à cette personne, de pouvoir les écouter et qu'eux puissent me parler. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Mais dans ce cas, en anglais, on a une expression pour juste dire on entre et on fait notre vie. Mais c'est vraiment un lieu saint. C'est un sanctuaire, un tabernacle. Et c'est pour ça que avant d'entrer, il y a le jour de la réconciliation, il fallait d'abord offrir l'offrande pour le péché, être lavé et ensuite être purifié avant de pouvoir entrer. Donc on voit, même là, si on va à la page suivante sur les slides, quand on entre, c'est ce qu'on voit, on voit le chandelier, on voit la table des pains de proposition. Et à la fin, en face, on voit l'autel d'or des parfums. La raison pour laquelle on parle de toutes ces choses durant la conférence, c'est parce que Dieu veut nous montrer quelque chose de plus profond que juste notre salut. Et on avait une question il y a quelques jours à ce sujet. Le but pour nous, c'est d'être des rois et sacrificateurs pour Dieu. Et comme sacrificateurs, on a une responsabilité de le servir. Et Dieu ne nous laisse pas juste le servir de la manière qu'on veut. Et ces symboles du tabernacle et tous les services des Lévites dans le Pentateuque ne sont pas pour nous pour suivre la lettre, mais ils sont pour nous aider à comprendre ce que Dieu désire dans notre service intérieur dans la vie chrétienne. La parole de Dieu ne se fane jamais, elle ne devient jamais vieille. On ne devrait jamais regarder ces choses comme quelque chose d'obsolète. Quand j'étais jeune et je lisais la parole, je suis jamais arrivée à la fin de Exode, Lévitique et Deutéronome. Je passais juste par-dessus. Mais en fait, si on passe par-dessus, on rate tellement de choses. Il y a tant de choses pour nous à comprendre et saisir. Et tandis qu'on parle de l'autel des parfums dans le tabernacle, j'espère qu'on a une appréciation plus grande et une plus grande compréhension de ce qu'on doit faire. Donc, ce qu'on regarde maintenant, c'est l'intérieur du lieu saint. Et dans Exode 30, 1 à 10, je ne vais pas tout vous lire. Mais là, vous pouvez voir que de nouveau, l'autel d'or des parfums était fait avec du bois d'acacia. C'est-à-dire qu'il ne se corrompt pas, qu'il n'est pas attaqué par des parasites. C'est vraiment une image de l'humanité parfaite de Christ. Recouvert d'or, qui est vraiment précieux, ça représente la nature de Dieu. Il n'y a plus ni argent ni airain dans ce lieu saint, il n'y a plus que de l'or. Partout où tu regardes, il y a de l'or. Tous les meubles dans le lieu saint sont en or. L'airain est à l'extérieur. Mais là, il n'y a plus que de l'or. Même cet autel d'or des parfums. Et il est placé juste devant le voile, au plus près de l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que sans ce voile, ce serait vraiment si proche de l'arche. Ça montre vraiment combien notre communion avec Dieu doit être tellement proche. Si je veux parler à quelqu'un, je ne vais pas me tenir à 10 mètres. Mais je vais quand même m'approcher de la personne pour parler. Si je me tiens à 10 mètres, ça va être compliqué aussi d'entendre cette personne. Donc le meilleur endroit pour parler à quelqu'un, c'est être proche. Donc, il me semble que l'emplacement est significatif. Et le souverain sacrificateur brûlait de l'encens ce matin et soir, tous les matins. Et il devait aussi entretenir la lumière du chandelier. Il devait remplir d'huile fraîche pour augmenter la lumière. Et quand tu fais ça, quand tu as plus de lumière, tu vois vraiment ta condition. Tu vois plus. Et ça nous motive. Ça nous guide à vraiment venir à lui. Sans être dans les ténèbres, comme John a partagé. Si notre lumière est fade, ça ne va pas. Mais là où il brûlait les parfums, c'est un lieu où il devait y avoir une lumière fraîche. Dans la traduction utilisée en anglais, il parle de quelque chose d'étrange. Ah, il dit qu'il ne faut rien amener d'étranger. Il ne peut pas y avoir aucun encens étranger qui soit offert. Tout ce qui est étranger reste dehors. L'encens est cet autel des parfums est uniquement pour l'encens. Rien d'autre ne doit aller dessus. Ce qui est aussi significatif, c'est que cet encens vient du Seigneur. Quand ils ont mis l'holocauste sur l'autel des holocaustes, le feu est venu par le ciel. C'est Dieu qui a donné le feu. Donc c'est aussi un feu qui est saint. Et il devait aussi amener le sang de l'offrande pour le péché. Et ensuite, dans Exode 30, on voit les détails de l'encens. Je ne vais pas vous donner tous les détails de cet encens, de tous les ingrédients. Ensuite, à la fête de la réconciliation, c'est relié à notre réconciliation. Pendant ce jour-là, une partie de l'encens était finalement mangée. Et était amené à l'intérieur de l'autre côté du voile. C'est une règle générale. Tu peux pas prendre quelque chose qui est pour Dieu et l'utiliser pour toi-même. Tu ne peux pas, ça appartient à Dieu. Donc, cet encens, si j'étais dans ce temps-là, j'aurais pas pu faire cet encens et le brûler pour moi-même. Ce n'est pas pour moi. Et on le voit pour le service sacerdotal aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit vraiment pour nous. C'est d'abord pour Dieu. Et le jour de la réconciliation, j'ai pris ces images de l'Institut du Temple. On voit un sacrificateur il y a vraiment une procédure où le souverain sacrificateur, après que les sacrifices pour le péché et l'holocauste aient été offerts, il doit prendre l'encens. Et l'amener dans de l'autre côté du voile. Et l'amener devant Dieu. Et la fumée de l'encens recouvre le trône. Je vous dirai après ce que ça signifie pour nous. Mais il faut déjà se souvenir de ce qui est dit. Ça a une grande signification. Ce que j'ai vu et ce que je veux vous partager, c'est qu'il y a un aspect de cet encens qui est vraiment Christ, une représentation de Christ. Pourquoi? Parce que cet encens était pour la réconciliation. Et la réconciliation, et elle était vraiment pour les péchés du peuple, pour être réconcilié avec Dieu. Et Christ a vraiment été cette réconciliation entre Dieu et nous, le peuple. Et un exemple, dans Nombre 16, je vous le lis rapidement, Nombre 16, versets 41 à 50. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum. » Là, on voit que le peuple se rebellait contre Moïse et Aaron. Et qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire? Il a voulu les consumer sur place. Et là, Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Et ensuite, verset 50, on voit que la plaie a été arrêtée. Donc on voit ce que Christ a fait pour nous. Aaron est une image de Christ. Moïse ne l'a pas fait. Il a dit à Aaron en tant que souverain sacrificateur de le faire. Qui est notre souverain sacrificateur aujourd'hui? C'est Christ. Et qu'est-ce que Aaron a fait? Il a pris cet encens. Il aurait pu faire tant de choses. Pourquoi pas faire une offrande sur l'autel des holocaustes? Pourquoi pas faire autre chose? Mais il y a vraiment une signification au sujet de cet encens. Cet encens, quand il le brûle, ça a arrêté la plaie. Ça a plu à Dieu. Ça a fait l'expiation. Et c'est exactement une des choses que Christ fait pour nous. Dans Hébreux, on voit cela. Hébreux 7, 25. Je vous le lis. C'est pour cela qu'il est aussi... C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Amen. Étant toujours vivant. Ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Si souvent, je parle pour moi, même si souvent je réalise que j'ai tant de défauts. Mais miraculeusement, Dieu n'a pas abandonné avec moi. Et pourquoi ? C'est grâce à notre souverain sacrificateur. Il est monté au trône et il intercède pour nous. Exactement comme Aaron l'a fait avec cet encens. Parfois, nous ne réalisons même pas cela. Nous pensons à nous-mêmes. « Oh, j'ai fait tellement de choses fausses. Comment Dieu peut m'accepter ? Comment je peux le faire ? Comment est-ce que je pourrais éventuellement terminer ?» Mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous, qui brûle cet encens, qui intercède auprès du Père pour nous, qui prie pour nous. Dans 1 Jean 2, je vous le lis aussi, il dit aussi qu'il est notre avocat. Dans Romains, il dit même que l'Esprit prie pour nous. Romains 8, 26 et 27. Amen. Car l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 27, il intercède en faveur des saints. Il y a quelqu'un, Christ, qui fait cela. Il intercède pour nous. Il demande à Dieu le Père de nous donner une autre chance. Il dit, je suis en train de travailler en lui. On voit dans Jean comment il a prié pour ses disciples. Il a prié pour nous. Luc 22 aussi. Versets 31 et 32. 31 et 32. C'est vraiment un exemple où le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. » Il a prié pour Pierre. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pouvez-vous imaginer que Jésus n'est pas juste celui qui nous a sauvés de la mort éternelle, mais il intercède pour nous. Donc il est cet encens qui est constamment brûlé devant Dieu. Et Hébreux 6, il est celui qui entre. Qui est entré à travers le voile, juste comme Aaron a pu le faire. Hébreux 8 et 9 en parlent aussi. Toutes les choses qu'on lit dans Exode et Lévitique au sujet du tabernacle sont symboliques. Ce sont des symboles de ce qui prend place aujourd'hui. Que aujourd'hui, nous avons notre souverain sacrificateur qui entre, traverse le voile, qui entre pour faire l'expiation pour nous. Et dans Acte 3, il peut être cet encens pour nous, car il est celui qui a plu à Dieu, qui a plu au Père. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est cet encens, cet autel des parfums est le plus proche du voile. Il est pile contre cette arche, il est au plus près. juste là, on le voit. Et c'est le... C'est le lieu le plus saint. Dieu a mis sa présence entre les chérubins dans le lieu le plus saint. Et c'est là qu'arrive la fumée de cet autel des parfums. Et un autre aspect, c'est que Christ n'a pas eu une vie simple quand il est sur terre, quand il était sur terre. Il a beaucoup souffert pour nous. Et il n'allait pas juste chauffer l'encens, mais finalement il est mangé. Christ est mangé pour nous. Il a souffert pour nous, pour faire l'expiation. Ça, on le voit, c'était fait au jour des expiations. Ce qui signifie que Christ est notre expiation. Un autre aspect, c'est que l'encens était associé aux prières à Dieu. J'ai pas mal compris la référence. La question, c'est est-ce que nos prières sont agréables à Dieu ? Luc 1 à 10. Luc 1, 10. La multitude était dehors pendant qu'on brûlait les parfums. Dieu désire ses prières continuelles. Il désire cette prière constante. Dans Apocalypse 5, 8, on voit que l'encens, c'est les prières des saints. Et 8, verset 3, on voit un ange qui tient l'encensoir d'or. Et ça rejoint Hébreux. On peut voir, chapitre 5, que le trône et tous les chérubins se tiennent devant, autour du trône et de cet autel. Juste là, on a, devant l'arche, dans le tabernacle, on a cet autel d'or, des parfums. Les prières, l'encens monte. Et ça amène à une action immédiate de Dieu. La question, de nouveau, est-ce que mes prières sont satisfaisantes et acceptables pour Dieu? Dans notre vie en tant que chrétien, je sais, en tout cas pour ma part, je n'ai pas réfléchi est-ce que ce que je faisais plaisait à Dieu. J'étais très concernée par ce que Dieu peut faire pour moi, pour qu'il rende ma vie plus simple, plus douce. Quelle décision prendre pour ma vie. Mais là, on peut voir un aspect clé de cet encens, c'est comment il plaît à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, avant qu'il brûle l'encens, il devait d'abord passer à l'autel des holocaustes. Il n'y a plus de moi-même. Si je veux brûler cet encens agréable à Dieu, il n'y a plus de moi-même. C'est tout. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui plaît à Dieu. Donc cet encens plaisait à Dieu. si vous avez remarqué, dans Apocalypse 8, 3, après qu'il ait parlé des prières des saints, Apocalypse 8, verset 3, dit qu'il offre les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? C'est le début de la septième trompette. Quel genre de prière faut-il pour initier la septième trompette? Si je prie juste pour mes propres désirs, je ne crois pas que c'est suffisamment puissant pour initier la septième trompette. Si je prie juste, si on va dans Ésaïe 3, on voit que l'encens était devenu une abomination pour Dieu. Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Et dans 2 Chroniques, le roi a brûlé de l'encens. Il a cru qu'il pouvait juste entrer et offrir. Et il a été atteint de lèpre. On voit que ce n'est pas uniquement l'encens qui compte, mais c'est l'autel lui-même. On voit que l'encens était offert sur tous les hauts lieux. Mais ce n'est pas possible. L'autel doit être saint. Il ne peut pas être terrestre. Mais il doit être céleste. Ça, c'est une abomination de juste le faire pour l'apparence. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années, dans un groupe où je me réunissais, tous les dimanches matins, il y avait un frère qui se levait et qui faisait une longue prière avec beaucoup de paroles qui avaient l'air tellement spirituelles. Mais ça ressemblait juste à un show. Quand tu pries, peut-être que tu pries tellement. Si tu pries de manière à ce que les autres le voient, la question c'est si je prie pour des choses humaines et terrestres. On voit dans Jacques 4, tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu demandes mal pour tes propres besoins, ton propre plaisir. Quel est le motif derrière nos prières? Est-ce que c'est juste pour nous-mêmes? Est-ce que c'est juste pour mes propres plaisirs? Ça ne peut pas être de l'encens qui plaît à Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas prier pour toi-même. Ne dites pas que j'ai dit que vous ne deviez pas prier pour vous-même. Nous devons aussi prier pour nous-mêmes, parce que nous avons tant de manques. On est court dans tellement d'aspects. Mais ça dépend de quoi on prie. Si je prie, Seigneur, je veux plus t'obéir, je veux plus t'aimer. Sauve-moi de mon cœur rebelle et désobéissant. Le Seigneur nous a aussi donné un exemple de prière dans Matthieu 6, quand il dit aux disciples comment prier. Priez pour la venue du royaume, pour la volonté de Dieu sur la terre, mais aussi pour votre pain quotidien. Bien sûr, si mes besoins ne sont pas remplis, ce sera une distraction à mon service pour l'Éternel. Bien sûr, le Seigneur va approvisionner, pourvoir. Le plus important, c'est qu'on parle à notre Père, on doit lui faire savoir nos besoins. On a besoin de ça. Il a envie qu'on vienne à lui. Rappelez-vous que l'autel des parfums, il est si proche de l'arche. Il veut qu'on vienne dans cette relation proche avec lui. Il veut nous écouter, il veut nous parler. Donc on a besoin de prier pour les choses dont on a besoin, pour notre condition, pour notre maturité. Mais la différence, c'est quel est notre désir. Est-ce que je prie pour des désirs égoïstes? Est-ce que je prie, Seigneur, est-ce que je dois prendre la voiture rouge ou bleue? Est-ce que vraiment ça intéresse Dieu? Ou bien quelle action est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce qui va me faire gagner le plus d'argent? Ça, c'est des prières pour nous-mêmes. Tu peux donner des excuses, oui, mais si j'ai la voiture rouge, je pourrais conduire des saints. Mais tu dois éprouver dans ton cœur quel est le motif. Est-ce que c'est toujours pour toi-même? Nous devons vérifier. C'est significatif que dans le lieu saint, il y a la lumière pour voir et éclairer sur nous. Et nos prières doivent être par l'esprit pour que nos prières soient douces et agréables à Dieu. Nous devons prier en accord avec cela. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Nous pouvons utiliser la parole comme base pour prier. Comment peut-on connaître la volonté de Dieu si ce n'est par la parole? Et la parole va nous guider pour prier. Et l'intercession aussi. Éphésiens, il parle d'intercéder en supplication pour les saints. De prier pour les saints. Ça, ce sont des choses qui plaisent à Dieu. Jacques mentionne ici la prière fervente des saints qui a une grande efficacité. Donc de nouveau, on a cet aspect d'être lavé, d'avoir le sang de l'offrande pour le péché. Si on n'a pas cette conscience, on va juste venir à Dieu et prier au sujet de n'importe quoi. Même prier pour les mauvaises choses, prier pour nos propres désirs, c'est vraiment laver. Le but, c'est vraiment d'être lavé, purifié, de traiter notre péché pour on a besoin de venir à l'autel des holocaustes d'abord, à l'autel pour vraiment être lavé et à la cuve pour vraiment pleinement purifié, parce que cet autel des parfums est si proche de l'arche, on ne peut pas juste venir comme on veut. Dieu écoute. Si on prend Christ comme notre justice, alors nos prières sont vraiment différentes. On ne prie pas juste pour nos besoins, il connaît nos besoins. Dieu est vraiment à l'écoute des prières des justes. Si j'offre vraiment consciemment Christ comme cet encens, j'ai vraiment cette conscience et cet amour pour la maison de Dieu. Et là, je vais vraiment prier en accord avec la volonté de Dieu, avec son besoin, et dans l'Église. Pourquoi? Ça, c'est vraiment, ça plaît vraiment à Dieu. On peut utiliser vraiment la parole pour guider nos prières. Si on regarde besoin de prier d'une manière qui ne soit pas légère, ne soyons pas juste satisfaits d'avoir une offrande pour le Seigneur dans le à la table, mais j'ai envie d'aller plus loin, d'aller vraiment plus profondément. Que mes prières, que ma marche plaisent vraiment à Dieu, qu'elles satisfassent le Père. Pourquoi? Parce que c'est de Christ, parce que je veux apporter Christ à mon Père. Et que le Seigneur continue de nous révéler de plus en plus au sujet de cet autel des parfums. Amen.